Il n'y a pas d'auditeurs. Il y a des amis qui écoutent. Il y a des personnes qui, comme moi, cheminent sur notre terre. Il y a en cette fin d'année à la fois le solstice d'hiver et Noël, les deux réunis, quel symbole. Moment, hélas, de plus en plus de consommation, mais il y a encore place au vrai cadeau qui est don, offert, et que l'on peut certes refuser. Nous sommes dans un contexte de consommation parfois si effréné. On dit désormais qu'il meurt dans le monde plus de personnes d'obésité et des conséquences de l'obésité que de la famine. Vous imaginez ? Moment de trêve où l'on prend encore le temps de vivre. Moment où il y a un certain réenchantement du monde. Moment d'échange où l'instant accueille l'éternité. Moment où le temps dégusté permet d'être présent à l'autre et à nous-mêmes. Moment chanté, car il se déroule, comme ce soir, dans un endroit simple mais pétri de beauté. La cheminée qui crépite, le sapin de Noël en fête, par les fenêtres loin à l'horizon scintillent les lumières, dont celle du clocher du village, et la mer où se reflètent les étoiles.
Michel, je voudrais vous poser 12 thèmes. J'ai noté que souvent vous preniez un chiffre impair comme 3, 5, 7, 9. Mais ce soir, c'est 12 pour chaque thème. Voulez-vous nous confier ce qui résonne en vous ? Vous adorez jouer avec les mots, mais ce soir, ce n'est pas résonne, comme peut le faire un message, mais résonne, comme une musique en vous.
Oui, j'accepte et j'apprécie le mot résonner, car selon moi, la musique est au-delà des mots. Elle n'en finit pas d'explorer l'infini. Volontiers.
Alors nous allons commencer avec le mot temps. Le temps.
Ah, le temps. Je dirais d'abord qu'il y a deux conceptions du temps complémentaires, mais différentes. Il y a le temps que la pendule me rappelle, il est 1 heure, et dans quelque temps il sera 1h10, puis 2 heures, etc. Puis il y a le temps psychologique, qui fait que parfois je dis « Mon Dieu, que c'est passé vite, je n'ai pas vu le temps passer. » Puis il y a peut-être une troisième conception du temps. Ce temps par lequel nous produisons la vie, notre vie et le vivant. Et là, il y a peu de livres qui m'ont marqué. J'entretiendrai deux. Le livre de Boris Cyrulnik, sous le signe du lien, qui aborde la question du temps, qui est un de ses plus beaux livres qu'on a oublié. Et puis tout simplement Le Petit Prince. Le Petit Prince qu'il faut lire et relire, parce que je crois que là, il y a une troisième conception du temps. Écoutons. « Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. »« L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le Petit Prince, afin de se souvenir. » Et le renard dit « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait que ta rose est si importante. J'ajouterais, c'est le temps que tu as offert, donné, sans calcul, de façon gratuite, à ta rose qui en fait son importance. Et le renard ajoute, les hommes ont oublié cette vérité, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je crois qu'il y a dans ce passage quelque chose d'essentiel. C'est le temps d'une vie est si courte, il ne se répète pas, nous n'avons qu'une vie, et nous pouvons produire, réaliser des choses si différentes, nous pouvons perdre notre temps, nous pouvons gâcher notre vie. Il y a eu aux États-Unis, il y a quelque temps, une étude faite par des infirmières, du personnel de santé, auprès de gens très différents, d'origines très différentes, qui allaient mourir. Et la question qui leur était posée était la suivante, qu'est-ce que vous regrettez le plus ? Et à une très très grande majorité, les gens ont répondu, c'est de ne pas avoir vécu, ou encore, d'avoir perdu ma vie. Donc, ce temps par lequel on crée des liens, on produit un apprivoisement qui en fait sa valeur suprême, je crois que c'est ça, vraiment ça, le temps, au-delà le temps de l'horloge et au-delà le temps psychologique dans lequel je vis les choses.
Merci beaucoup Michel pour cette réponse. Alors, le prochain mot est l'espace.
L'espace. J'avoue que j'ai été assez longtemps en minimisant l'espace, bien que toujours j'ai accordé de l'importance au lieu que j'habitais. J'essayais à chaque fois de vivre dans un lieu qui soit beau. Puis avec le temps, j'ai réalisé l'importance que l'espace a. Le hasard a voulu que dans ma vie, j'ai dû abandonner une maison qui était magnifique, grande, immense, un manoir avec des pierres, un terrain extraordinaire, pour une maison beaucoup plus simple, beaucoup plus réduite, un terrain beaucoup plus petit. Mais cette maison, je l'appelle parfois soit le phare, soit le monastère. Alors le phare, pourquoi ? Parce que la maison donne sur trois faces, le soleil y rentre d'une façon extraordinaire, l'autre face est à l'arrière, elle est sur le chemin, elle nous protège du bruit. Donc il y a une sorte de phare ouvert sur le monde, et le matin, si on se lève assez tôt, juste avant le soleil, certains jours on peut voir les montagnes de Corse. Et puis c'est un monastère, parce que je vois un petit écureuil qui vient régulièrement me rendre visite. Il y a des oiseaux, il y a ce calme extraordinaire, il y a une soixantaine d'oliviers. Alors je crois que l'importance de l'espace est très importante, d'autant plus que j'aimerais vivre dans le monde entier, je voudrais voyager. Donc, à défaut de voyager dans le monde entier, eh bien l'espace où j'habite me permet de voyager. Comment ? Tout simplement en marchant sur le chemin qui est à l'arrière et de découvrir des choses parfois extraordinaires que je n'aurais pas vues si j'avais voyagé dans le monde. Je voyage aussi grâce aux musiques, aux livres, aux gens que j'écoute. Bref, il y a tant de possibilités de voyager et pour cela, il faut un espace que l'on a aussi apprivoisé et qui nous rend par sa beauté, son calme, sa sérénité, les conditions pour vivre.
Merci beaucoup. Alors maintenant, le troisième mot, la mort.
Ah, quel mot ! Avec le temps, je dirais que la mort me fait de moins en moins peur. Elle est finalement le dernier acte de la vie. Sans la mort, il n'y aurait pas la vie. Et sans la vie, il n'y aurait pas la mort. La mort, c'est donc là où je vais quitter le monde, où va cesser cette séquence unique de la vie, à un moment donné de l'histoire du monde, dans un lieu donné, dans un contexte donné. Et je trouve que la mort est inévitable. Je comprends que dans l'histoire du monde, on ait voulu à tout prix trouver un au-delà, et on l'a imaginé de façon différente. L'islam l'a imaginé d'une façon plus différente que les chrétiens, les tibétains encore d'une autre façon. Moi, j'avoue que je ne sais pas ce qu'il y a derrière la mort. Et je prends le pari suivant, où il n'y a rien, et donc ma vie suffit à elle-même, et la mort en est le dernier acte, où la mort m'ouvre sur quelque chose d'autre. Je suis prêt aux deux, je ne prends aucun pari. Le vrai pari, le vrai risque, c'est de vivre jusqu'à sa mort et d'assumer sa mort.
Merci beaucoup. Quelle réponse pour un tel mot ? Maintenant, le lien.
Ah, c'est aussi un autre mot extrêmement important que celui de lien. Et je crois que je voudrais faire ici un rappel. Un rappel, le mot « lien » est un mot fondamental. Il est ambigu, certes, car il y a des liens qui peuvent étouffer, mais il y a d'autres liens qui sont des liens de guide, d'accompagnement, de liberté, de création. Et c'est pourquoi un certain nombre d'auteurs, peu nombreux encore, parlent de déliance, c'est-à-dire de décomposition du lien. Cette notion de déliance, j'y crois beaucoup, je la constate autour de moi, dans la famille, dans le travail, dans l'amitié. Le mot de disparition, de décomposition du lien est assez impressionnant. Je voudrais ici rappeler ce très beau livre d'Alan Bloom, « L'amour et l'amitié ». L'auteur essaie d'explorer finalement le lien humain qui, selon lui aussi, se défait, non pas par l'effet de quelques fatalités extérieures, mais simplement parce que nous le voulons ainsi, nous le laissons faire ainsi. Nous oublions le lien. Et il rappelle que l'amour et l'amitié sont quelque chose de fondamental qui se construisent autour du lien et que ceci est remplacé par des relations sexuelles, par des relations amicales, mais où le lien disparaît. C'est un très très beau livre que j'apprécie beaucoup et que je recommande sa lecture. Il existe en livre de poche. C'est un livre extraordinaire sur l'amour et l'amitié. Mais je voudrais aussi rappeler ce mail que m'envoyait hier soir Edgar Morin, 97 ans, que je vais rencontrer à Montpellier où il réside maintenant en janvier. Il est actuellement au Maroc. Et il envoie ce mail, mes vœux pour 2019. Mon souhait, que nous trouvions paix et douceur, en formant des oasis aimables, avec poésie et passion, et il ajoute, car arrivent des temps redoutables, d'une immense régression. Et dans cette régression, je crois qu'il y a la décomposition du lien, ce qui nous relie, car nous ne pouvons pas vivre, exister, personnellement, si nous ne sommes pas en relation avec l'autre.
Merci. Et maintenant, le mot tout aussi important que celui de mort, la vie.
La vie. Je nais à un moment donné de parents que je n'ai pas choisis, dans un lieu que je n'ai pas choisi, et ma vie, je ne l'ai pas choisie. Donc, j'entre en vie sans que l'on m'ait demandé mon avis. Je surgis dans la vie, je suis expulsé dans cette vie, je prends ma respiration, et à partir du moment où je me mets à respirer, je vis, mais en même temps, je reviendrai, je pense, sur cette notion, j'engage ma vieillesse, je commence à vieillir. Je vis et je vieillis à la fois. C'est une des transformations silencieuses sur laquelle aussi je reviendrai. Alors la vie, c'est quelque chose de fabuleux. On grandit. Alors on a découpé généralement la vie en trois séquences, qui est totalement une chose artificielle selon moi. L'enfant et la jeunesse et l'adolescence d'un côté, la vie dite adulte d'autre part, et puis les vieux ou les seniors maintenant, comme on les appelle. Trois séquences. En réalité, je pense que la vie est un continuum, est un processus. Et qu'il faut vivre ces séquences interdépendantes les unes des autres pour construire sa vie. Mais il y a à un moment donné une découverte que l'on fait, c'est que exister est plus que vivre. Et là, il y a un auteur que je trouve remarquable, qui a écrit des livres extraordinaires que chacun peut lire, c'est François Julien, l'auteur français le plus traduit dans le monde, qui a écrit en particulier « Une seconde vie », ou encore vivre en existant, et il montre qu'à un moment donné de sa vie, à des moments variables et parfois jamais, mais cela peut se produire très tôt, ou peut se produire au temps de la vieillesse, ou encore une fois, je le dis, jamais, nous prenons conscience que la vie que nous avons conçue, que nous vivons, n'est pas la vie. Elle est dans le paraître, elle est dans l'exploration, dans l'exploitation. Et tout d'un coup, par lucidité, nous comprenons que la vie, ce n'est pas ça, qu'il faut prendre une autre conception de la vie, et c'est ce qu'il appelle une seconde vie. Et on peut imaginer une seconde vie avec un premier amour ou avec un autre amour, c'est à un moment donné où les choses basculent. Et il y a des gens qui ne connaissent pas la seconde vie par rapport à la première, c'est d'exister, qui encore une fois est bien plus que vivre. Voilà ce que je dirais de la vie, qui est un cadeau extraordinaire que l'on a une fois pour toutes, chacun une fois, elle ne se répète pas, elle ne se répétera pas, elle arrive dans l'histoire du monde à un moment donné qu'on n'a pas voulu, mais j'avoue que je suis ravi d'avoir vécu cette partie du monde et j'aurais aimé quand même la poursuivre avec l'âge que vous avez, une seconde fois, malheureusement, arriver comme Edgar à 97 ans est déjà exceptionnel, et donc il faut déguster la vie, la déguster simplement, en simplicité, dans les choses les plus petites, ces petits riens qui font la beauté de la vie.
Merci. Alors maintenant, enfin, le mot amour.
L'amour. J'ai beaucoup lu, j'ai animé des émissions sur l'amour et je ne sais pas encore définir l'amour. Il y a des livres incroyables. Quel est le philosophe qui n'a pas réfléchi sur l'amour? Mais au-delà des philosophes, il y a d'autres auteurs. Je pense par exemple à des livres comme, en l'occurrence, un auteur, François Nidal, qui pose la question « Et si de l'amour on ne connaissait rien ?» Ou encore un philosophe contemporain, je vous laisse le découvrir, « Et si l'amour durait ?» Car l'on pense actuellement que l'amour ne dure pas, que l'amour c'est une suite d'amourettes, que l'amour dans la durée c'est de l'ordre de l'impensable, de l'impossible. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas encore une fois. Un jour je posais la question à la femme d'un couple ami, elle m'a répondu c'est quelque chose de très simple, c'est quand l'autre est plus important que soi. C'est une belle définition, je la retiens, mais je pense qu'il faudrait encore l'explorer, aller plus loin. Il y a un auteur, Umberto Galimberti, qui est bien sûr italien, qui dans un livre « Qu'est-ce que l'amour ?», qui est très intéressant, conclut en disant « L'amour, c'est ce qui fait toucher du doigt les limites de l'être humain, et j'ajouterais, en partageant comme jamais l'intimité, mais non seulement l'intimité corporelle, mais l'intimité de l'âme, du cœur, l'intimité au quotidien qui fait que regarder suffit et que se parler, ça devient presque secondaire. »
Alors avant de reprendre ces quelques mots, nous allons passer à une musique de nouveau et nous reprendrons juste après. Alors, après cette interlude musicale, nous allons reprendre ces fameux mots. Nous allons recommencer cette partie avec le mot « éducation » qui, je crois, vous porte vraiment à cœur.
Oui, pour moi, c'est un mot clé. Dans toute vie humaine, l'éducation est un mot clé. Et on ne cesse de parler de l'éducation, mais de quoi parle-t-on ? Par exemple, George Feynman, qui a vécu dans le même village où je réside, a écrit au terme d'un de ses plus beaux livres, « La puissance et la sagesse », ceci, « L'éducation, son succès ou son échec, commande l'avenir de l'homme ». Seulement, ce mot « éducation » pose un double problème. D'abord, dans un pays comme la France, il est confondu avec enseignement. Par exemple, récemment, un auteur connu, qui est à Sciences Po à Paris, écrit un texte passionnant en disant que plus les gens sont éduqués, plus ils sont crétins. Je vous invite à lire ce texte qui pose question pour tous les gens diplômés dans le supérieur et donc à l'université. Mais je pense que l'auteur confond enseignement et éducation. Il ne dit pas que plus les gens sont éduqués, plus ils sont crétins. Non, lui-même confond enseignement et éducation. Il dit que plus les gens sont diplômés, plus ils sont crétins. Et ça pose une question impressionnante, ce qui montre bien que l'enseignement et les diplômes ne garantissent en rien l'éducation. Donc cette confusion entre enseignement et éducation, ministère de l'Éducation nationale par exemple, est une profonde erreur qui va nous coûter très cher, et très peu d'auteurs ont mis l'accent sur cet aspect. Il y a entre autres Luc Ferry, qui lui-même a été ministre de l'Éducation, et qui dit que lorsque, dans les années 30, la France a choisi le titre de ministère de l'Éducation à la place de ministère d'Instruction publique, ça a été une profonde erreur. Et je pense qu'on va continuer de la payer très très cher, car pour beaucoup de gens, l'enseignement et l'éducation, c'est la même chose, et donc ils ne savent plus ce que c'est que l'éducation. Mais il y a une autre dimension. C'est que l'éducation, jusqu'à ce jour, nous l'appelions éducation, mais ce n'est plus l'éducation d'aujourd'hui. L'éducation d'hier, celle dans laquelle j'ai été éduqué, correspond tout à fait à la définition de Durkheim, à savoir, en gros, je réduis, que l'éducation, c'est l'action des générations adultes sur les enfants et les adolescents pour les conformer à ce que la société attend d'eux. Une telle définition est dans l'esprit de beaucoup d'adultes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas éduquer en formatant les enfants pour ce que la société attend d'eux, puisque nous ne savons plus les métiers que les gens vont occuper. Et d'autre part, cette dimension est totalement insuffisante. Alors le Nouvel Esprit Scientifique, qui a été un livre de Bachelard, m'a beaucoup inspiré pour écrire Le Nouvel Esprit Éducatif, qui est un des livres que j'ai produit il y a quelque temps. Et j'appelle le Nouvel Esprit Éducatif le fait que désormais il s'agit de l'éducation de tout l'être tout au long de sa vie. De tout l'être, c'est-à-dire du corps, du cœur, de l'esprit, de tout, je dis bien de tout, de l'art, des arts, et en même temps tout au long de sa vie. C'est une conception d'éducation qui est absolument extraordinaire, mais que nous ne commençons à peine à réaliser. C'est pourquoi un de mes livres en cours, c'est « Sentier incertain du nouvel esprit éducatif », car je pense que cet esprit éducatif nouveau avancera très très lentement, hélas, et que la dimension de Friedman ou de d'autres auteurs, c'est-à-dire que, par exemple, je pense à Wells, qui a écrit que la course est désormais engagée dans notre civilisation entre l'éducation et la catastrophe, est très incertaine. Et puis, il y a cette citation que j'adore rappeler. Il y a des siècles, un sage chinois, conseiller d'un empereur en Chine, dit à ce dernier « Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies et coûter cher en vie humaine, il vous suffit de détruire son système d'éducation et dégénérer la corruption. Ensuite, il vous faudra attendre une vingtaine d'années et vous aurez un pays constitué d'ignorants et dirigé par des voleurs. » Donc, cet enjeu de l'éducation, du nouvel esprit éducatif, est important. On en parle très très peu, on garde un silence incroyable, parce qu'elle dérange, elle met en cause chacun d'entre nous. Je pense à un livre récent qui est sorti, qui nous vient de l'Écosse, et où l'auteur dit « L'éducation, c'est bien plus que l'enseignement et l'apprentissage. » En cela, il me rejoint. Bien plus que l'enseignement et l'apprentissage, j'insiste. L'anthropologie, bien plus qu'étudier la vie des personnes. Et l'auteur soutient que l'anthropologie comme l'éducation constituent des manières d'étudier la vie, de la mener soi-même et avec les autres. C'est absolument extraordinaire. Et puis, pour terminer sur cette dimension de l'éducation, j'ai redécouvert un livre qui m'a accompagné toute ma vie, surtout quand j'ai repris mes études. C'est un livre de Jean Guiton, Le travail intellectuel. Ce livre, méconnu maintenant, est un livre fabuleux. Et comme tout livre, chaque fois que vous le relisez, vous y découvrez des choses nouvelles. Et dans ce livre, à un moment donné, l'auteur dit ceci. Il n'y a pas d'éducateur. Mais écoutez bien ce qu'il suit. Mais seulement des gens qui montrent aux autres comment ils s'y prennent pour s'éduquer eux-mêmes. Je trouve ça extraordinaire. Jean Guiton. Je pensais que j'avais, avec le nouvel esprit éducatif, essayer de cerner quelque chose de nouveau, de majeur, et je découvre que cette idée existe dans plein d'auteurs, existe dans des traditions, dans des civilisations, dans des cultures. Je relis parce que je trouve cette chose extraordinaire, il n'y a pas d'éducateurs, mais seulement des gens qui montrent aux autres comment ils s'y prennent pour s'éduquer eux-mêmes. Et il ajoute une citation, écoutez bien parce que je crois qu'elle est extraordinaire, « L'éducateur parfait est celui qui voit dans tout imbécile qui se connaît, un intelligent qui se méconnaît, comme dans tout intelligent satisfait, un imbécile qui s'ignore. » Voilà pourquoi l'éducation, dont on parle si peu, est un des enjeux majeurs du 21e siècle, du 3e millénaire et de notre devenir.
Merci beaucoup. Alors le prochain mot, qui est particulièrement d'actualité, le mot « mondialisation ».
Mondialisation. Alors personnellement, d'abord je dis ceci, globalisation et mondialisation, ce que tous les auteurs ne font pas. Pour moi, la globalisation, c'est la découverte du globe terrestre et sa ramification. Et je pense que désormais, grosso modo, la globalisation, dans sa globalité, est quasiment terminée. Les réseaux de communication sont tels que, pratiquement, lorsqu'un événement se passe en Chine, je le connais pratiquement immédiatement. La globalisation est une chose, mais la mondialisation s'amplifie. Elle n'a cessé d'être depuis le début du monde. Mais nous allons dire que depuis quelques décennies, elle prend un rythme rapide, heurté, particulièrement violent, où tout est bousculé. Nous ne sommes plus à l'ère où l'Europe colonisait l'Afrique ou l'Amérique latine ou une partie de l'Asie. Nous sommes dans une ère où la Chine devient le premier pays du monde et où demain, elle sera relayée par l'Inde, selon les démographes en particulier, mais aussi les économistes, et puis ensuite par l'Afrique. Autrement dit, l'ère de l'Europe comme régentant le monde est globalement terminée. Ce qui ne veut pas dire que la contribution de l'Europe au devenir du monde soit finie, pas du tout. Il est totalement renouvelé, mais pas du tout sur un rapport dominant-dominé. Cette mondialisation que nous vivons tous les jours par les médias, nous la vivons hélas beaucoup plus dans ce qui ne va pas que dans ce qui va, car il se passe tous les jours dans le monde des choses extraordinaires, magnifiques, mais les médias n'en parlent quasiment pas. Seulement, dès qu'il arrive un mort, une tuerie, surtout si c'est un Européen, car combien faut-il d'Africains, de gens d'Amérique latine, d'Asiatiques, comparés à un Européen pour qu'on fasse attention à la violence? C'est une question terrible. Mais il y a plus. Dans cette mondialisation, dans ces rapports de force, dans cette quête apparemment impossible à gérer, nous voyons surgir un clivage difficilement imaginable à ce point il y a 10, 20 ou 30 ans. Ce qui va chez le suivant, c'est deux postures, ou chacun pour soi, et pour cela, si c'est nécessaire, on écrase l'autre, on oublie l'autre, ou on essaie de vivre en convivialité, en concertation avec les autres, car sans les autres, on ne peut pas vivre. Le premier mouvement s'étend dans le monde actuellement, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, que ce soit en Asie, que ce soit au Moyen-Orient, nous voyons surgir des dictateurs, c'est-à-dire des gens autoritaires, qui n'hésite pas à écraser le peuple, qui n'hésite pas à dominer pour s'en sortir. J'ai vu l'autre soir sur Arte une émission sur la Chine qui m'a énormément impressionné. Cette émission, si vous pouvez la retrouver, regardez-la, elle est impressionnante. On voit surgir le président de la Chine qui a été calculé, préparé pour symboliser le pilote de la Chine. Il doit dominer, écraser ses adversaires, etc., comme dans d'autres pays. Et ceci pose en particulier